Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode d'InnoVed, un balado sur l'innovation en éducation par Mathieu Gauthier. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode. Donc depuis le dernier épisode, il y a eu plusieurs mouvements, plusieurs activités sur mes médias sociaux. Je voudrais tout d'abord saluer Dominique Descoeurs, qui s'est abonné suite à l'entrevue avec Mme Laurie Fraser. Et Dominique a eu la gentillesse de partager son appréciation du balado sur Twitter lors d'une discussion avec du prof. Donc, je vous remercie. Puis, si vous voulez nous contacter via les médias sociaux pour nous donner la rétroaction, ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Donc, cette semaine, je me suis entretenu avec M. Brian Ouellette, qui est à peu près un peu mon homologue, si vous voulez, sur le secteur anglophone. Donc, Brian travaille comme agent pédagogique dans les STEM, donc sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Et il va nous parler de comment, dans leur district, ils ont entrepris un virage numérique, puis comment ça se vit au sein comme un membre du district, puis aussi comme enseignant et direction dans un district comme celui-là. Bon épisode! Donc, maintenant, je suis en présence de M. Brian Ouellette. Donc, Brian, merci de nous accorder ton temps pour parler avec nous.
De rien, Mathieu. Merci de m'avoir.
Brian, pour un peu que nos auditeurs puissent savoir un peu plus sur toi, est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet de vie carrière et comment ça a évolué au fil du temps?
Oui, absolument. J'ai commencé ma carrière comme enseignant de 8e à 12e année mathématiques et sciences ici au district anglophone à l'Est. J'ai fait ça, disons, 8 ans, 9 ans. Après ça, j'ai fait une position pour la province. J'ai créé un programme, on appelle ça un digital screener. C'était pour former un formulaire en ligne pour que les élèves pouvaient répondre des questions mathématiques puis que les enseignants pouvaient avoir les réponses en vie réelle, dans le moment. Après ça, j'ai fait une position au district qui s'appelle... c'était comme un coach, si tu veux, un leader en STEM. J'ai fait sa position-là pour 4 ans. Puis là, je suis au district comme agent pédagogique pour la science et mathématiques de 6e à 12e année. Et moi, je travaille avec une équipe de 6 accompagnatrices et accompagnateurs, si tu veux, pour aider les enseignants et les enseignants du district à impliquer la technologie dans la science puis la mathématique et aussi faire le lien entre les deux sujets pour non les enseigner juste un à la fois.
Donc, ça, c'est intéressant, Brian. Fait que ton rôle dans ton district, c'est vraiment chapeauter le lien entre les sciences, les mathématiques puis la technologie.
C'est bien ça, c'est faire le lien. Pour vraiment, on sait bien qu'il y a des enseignants, beaucoup de nos enseignants enseignent pas seulement la mathématique ou la science, c'est souvent qu'ils enseignent mathématiques et sciences durant la journée à la même classe. Ça fait que c'est faire le lien que si j'enseigne dès le matin, j'enseigne la mathématique, comment est-ce que je peux utiliser les outils, les apprentissages dans le matin et les utiliser dans l'après-midi dans ma classe de sciences. Ça fait que c'est pas de répéter quelque chose, mais de les faire conjoint entre les deux et aussi impliquer la technologie pour faire un petit peu plus facile les affaires qu'on fait aujourd'hui dans nos classes.
Puis, Brian, dans votre district, vous avez fait un virage numérique, peut-être pas juste en sciences, pas en mathématiques, mais plus au sens large, si je comprends bien.
Oui, nous autres, notre but dans le district, c'est de vraiment changer comment... pas simplement comment qu'on enseigne, mais comment que les élèves apprennent et ils démontrent leurs apprentissages dans la classe. Ça fait vraiment, on voulait voir, pas seulement voir, mais changer la méthode que les élèves démontrent leur apprentissage. Ça fait publier quelque chose sur le web ou dans la classe pour démontrer, comme tu dis, pas simplement la mathématique, la science, les autres sujets aussi. En utilisant la technologie comme des iPads, des smartboards, puis des applications comme FreshGrade ou Explain Everything, des affaires comme telles.
Parfait, c'est intéressant, Brian. Fait que c'est vraiment comme dans ce sens-là qu'on va discuter notre entrevue aujourd'hui. Donc, on va vraiment aller voir comment on peut apprendre de votre district qui a fait un virage numérique. Fait qu'on pourrait peut-être commencer par parler de... C'est quoi les premières étapes que vous avez entamées pour faire votre virage numérique à votre district scolaire?
Premièrement, c'est vraiment déterminer la capacité du district, mais pas simplement du district, mais de les écoles, de les enseignants et aussi de les élèves. C'est de voir est-ce que toutes les écoles peuvent prendre la technologie puis l'utiliser, ou est-ce que c'est on prend l'école, une école à la fois pour choisir ou déterminer c'est qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Alors, on a commencé avec des avec cela, on a déterminé c'est quoi, quelle école ou pas quelle école, mais qu'est-ce que les écoles avaient besoin. Et après ça, on a vraiment regardé la technologie qu'on avait. Alors, la plupart de nos écoles ici au district anglophone Est, c'était avec des iPads. Avec, on a commencé un déroulement iPad, pas un à un, mais pour des chariots, si tu veux, d'iPad pour l'école. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on est 10 ans dans le projet. On est arrivé à des 5 ou 10 iPads par classe. Mais ce n'est pas dans toutes les 39 écoles, c'est sûr. Mais c'est ça, notre déroulement, c'était de déterminer c'est qu'est-ce que tout le monde voulait. Puis c'était accès aux technologies, pour avoir accès à l'Internet et de pouvoir publier de l'information. Avec nous autres, on a vraiment commencé avec les iPads. Ben, on a commencé avec les smartboards au début. Mais avec les iPads, on a déterminé que on pouvait donner la technologie aux élèves et eux pouvaient publier et démontrer qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans tous les sujets et pas simplement juste une chose à la fois, si tu veux. Ça fait que on a vraiment commencé par déterminer c'est qu'est-ce que les enseignants voulaient, qu'est-ce que les écoles voulaient faire, et c'était quoi les outils qu'on pouvait prendre ou acheter pour impliquer ce changement dans nos écoles. Puis vraiment, dans le temps, disons dans l'année 2010, le buy-in, c'était iPad. Ça fait que c'était vraiment intéressant aux enseignants d'avoir l'idée d'avoir des iPads dans la classe ou avoir accès aux iPads et pas simplement un labo d'ordinateur. Parce que dans ce temps-là aussi, on se rappelle, on avait les laptops sortis pour tous les enseignants dans la province. Ça fait que c'était de trouver une méthode d'avoir tous les outils dans la classe qu'on pouvait prendre la technologie, pas simplement aller faire de la recherche ou écrire des labos, mais c'est de pouvoir publier, démontrer nos apprentissages.
Puis Brian, peux-tu nous parler un peu plus pourquoi vous avez choisi justement l'iPad et non un portable dans le fond? Qu'est-ce qui étaient les avantages d'une tablette par rapport à un ordinateur portable?
Ben, c'est une bonne question, Mathieu. La tablette, bon, je veux dire iPad spécifiquement. La raison, iPad, c'était la différence entre un iPad iOS, puis les smart tablets, puis, disons Android. C'était la méthode qui se branche le réseau. C'est plus que moi, je comprends pas toutes les affaires techniques. Mais c'est que l'iPad avait plus de sécurité déjà interne dans l'iOS que quelque chose qui avait, disons, Android, qui était plus ouvert, disons, au réseau. Ça fait que c'est ça la première raison qu'on a décidé d'aller dans la direction Apple, si tu veux. Puis la tablette, tu sais, l'affaire de handheld, c'est vraiment un changement de pas pouvoir d'être connecté ou branché au mur. On veut être, c'est sans fil. C'est comme genre un portable. Comment est-ce qu'on peut prendre notre apprentissage à quelque part d'autre et pas seulement dire, hey, j'ai besoin d'être à la table, branché au mur. Puis être dans la même section de l'école à chaque fois. Les iPads nous donnent la chance de pouvoir aller à différentes places dans l'école, si tu veux, dans différentes classes, puis pas, tu sais, avec un labo qui stationne dans la même place, dans la même salle de classe à chaque jour. Faut qu'on schedule un moment qu'on va là. Puis c'est comme, disons, une activité, un événement, si tu veux. Mais avec les iPads, avec les tablettes, c'était une ressource. C'est pas seulement un événement, c'est une ressource pour les élèves pour pouvoir faire quelque chose. Ça fait que en fin de compte, c'était vraiment le choix Apple, c'était parce que la sécurité était plus là avec Apple. Puis le choix de tablette, c'était plus mobilité, si tu veux.
Oui, c'est probablement la mobilité, puis surtout, j'imagine aussi sa polyvalence, parce qu'il y a beaucoup de tous les outils sont intégrés, dans le fond, la caméra, le microphone, ainsi de suite, là.
Oui, absolument. Il y a assez de pouvoir dans une tablette. T'sais, avec un ordi, il faut que tu achètes la webcam, tu achètes le microphone, tout ça. Puis avec la tablette, tu as tout dans un. Puis aussi, ben, disons, Apple, avec Zul, les applications que tu achètes ou qui sont gratuites, ils vont dans un programme comme de sécurité pour Apple. Ça fait que si c'est dans le App Store, tu sais que c'est protégé ou c'est sécuritaire pour l'élève ou même pour le iPad seul. Ça fait que c'est ça. Ça fait plus facile que les enseignants savent que c'est sécuritaire, c'est facile à utiliser, puis c'est pas quelque chose, ben, physiquement, on peut le casser, mais si tu joues avec les apps ou tu essaies de télécharger quelque chose, tu peux pas casser l'iPad comme tel.
Puis une fois que vous avez déterminé cette capacité-là, Brian, dans votre district, qu'est-ce qui était la prochaine étape? Une fois que vous avez déterminé, bon, maintenant, X, Y, Z d'école, il y a tel outil, on veut aller avec des iPads, ils n'en ont pas, ils en ont quelques-uns. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite?
C'était déterminer où qu'on commence. C'est parce que, comme je l'ai dit, on a 39 écoles dans notre district, puis, tu sais, l'argent, c'est pas, on n'a pas des, on a pas de l'argent pour tout le monde. Mais c'est de déterminer c'est où qu'on commence, où est-ce qu'on commence petit avec tout le monde. Ça fait qu'au début, quand on a commencé avec les chariots d'iPad, on a demandé aux écoles, ben, on n'a pas, excuse-moi ça, on n'a pas demandé aux écoles, on a fait un suivi aux écoles pour déterminer est-ce que le réseau peut avoir plus d'affaires sur le réseau. Ça fait que si on met 10 iPads dans l'école, est-ce que le réseau de l'école peut soutenir le plus de iPads? Ça fait que c'est ça le début de notre recherche. Puis à la fin de la journée, on a vu que plusieurs de nos écoles, je suis sûr que c'est la même chose au district francophone. On a des écoles qui sont âgées de, tu sais, 1985, si tu veux, ou 1945. Puis c'est pas mal vieux, ça. Ça fait que le réseau dans l'école, il est vieux. Ça fait qu'on n'a pas des hotspots, comme on dit, assez de place pour soutenir tous les iPads. Ça fait qu'on a commencé dans des écoles qui étaient plus capables, avaient la capacité d'avoir des iPads dans l'école. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu comment les élèves utilisaient les iPads, les enseignants utilisaient les iPads. Puis là, ça a commencé à reproduire partout, dans toutes nos écoles. Puis on a fait un plan de match. On a décidé pour les écoles à l'instant qui ne peuvent pas prendre des iPads de nouveau ou les mettre sur le réseau, il faut faire un upgrade. Il faut changer le réseau, on l'appelle Thick Wireless, pour que ça puisse soutenir t'sais, les affaires sur le réseau pour pas que ça crash ou que tout le monde puisse se brancher avec succès.
Oui, c'est certain que les considérations en infrastructure sont importantes. Puis des fois, souvent, comme enseignant en salle de classe, on n'a pas nécessairement tout ce portrait-là à savoir, mais pourquoi ça prend longtemps, c'est qu'on a beaucoup de travail à faire des fois avant d'arriver pour éviter justement ces problèmes majeurs-là. Dans le fond, si on arrive, puis la direction d'école, puis les adjointes administratives n'ont plus accès parce qu'on a mis trop d'iPads sur le réseau, ça nous fait pas avancer non plus comme système éducatif, là.
Non, puis oui, tu as bien dit ça parce que souvent, nous autres, on se fait demander, ouais, mais pourquoi je peux pas utiliser mon cellulaire ou pourquoi je peux pas utiliser mon laptop de la maison ou mon iPad personnel? Puis c'est bien ça, c'est que, c'est dans le fin de compte, c'est que le réseau peut pas le supporter. On n'a pas assez de SSID, on n'a pas assez de portes ouvertes, si tu veux. J'essaie d'aller dans le contexte technique
Oui.
pour que toutes les. On peut, pour que tout le monde puisse brancher. Ça fait qu'il faut qu'on prenne ça école par école. Puis des fois, tu sais, c'est pas simplement, ah, voici 10 iPads, puis vas-y, fais ce que tu veux. Parce que si qu'on te donne 10 iPads, puis le réseau peut pas le soutenir, là, les iPads peuvent pas se brancher, ou, tu sais, ton ordi à toi-même, comme l'enseignant, commence à peut plus se brancher. Ça fait qu'il y a des affaires qui peuvent arriver, qu'on veut pas qu'ils arrivent, que la technologie devient, tu sais, un problème dans la classe ou un problème dans l'école. Ça fait qu'on essaye le plus qu'on peut de faire l'arrière, le travail arrière pour que quand ça commence et qu'on commence à l'utiliser, que ça fonctionne bien et ça juste, ça marche.
Puis une fois, Brian, que ces aspects techniques-là, ou qu'on a étudié la capacité, qu'on a vérifié que l'infrastructure est à jour, qu'il puisse avoir assez d'adresses IP, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on fait donc? Moi, comme enseignant, on m'accorde, disons, une dizaine d'iPads. Comment on fait ça, là?
Ah, c'est une bonne question parce que ben, on est arrivé 10 ans plus tard. Là, la plupart de nos écoles ont des iPads. C'est le support. C'est le support du district à l'école et pour le district. Ça fait que nous autres, aussi à District anglophone Est, on a des accompagnateurs, des accompagnatrices en technologie, en STEM et d'autres sujets aussi. Et leurs travaux, c'est de travailler avec les enseignants pour impliquer la technologie. Alors moi, mon équipe de 6, disons, en sciences et mathématiques, leurs efforts, c'est de trouver une méthode d'utiliser les iPads dans la classe pour que les enseignants peuvent voir comment ça fonctionne et comment on peut transformer l'éducation avec cet outil-là. Alors, c'est pas simplement « voici 10 iPads, vas-y, montre-moi qu'est-ce que tu peux faire ». C'est on a des personnes qui peuvent rentrer, qui peuvent aider les enseignants à faire un changement. Alors, c'est ça, le but, c'est pas parce qu'on veut faire sûr qu'ils l'utilisent, mais c'est de démontrer comment ça peut être utilisé effectivement pour publier, pour changer la classe dans une forme de traditionnelle à transformer et pas simplement, tu sais, oh, j'ai d'accès à l'Internet, ça fait qu'on peut faire de la recherche sur un contexte science, si tu veux, et écrire un rapport, si tu veux. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas, si vous avez déjà entendu du contexte SAMR, le modèle SAMR,
oui.
Ça fait que dans ce modèle-là, c'est pas, on veut pas juste remplacer quelque chose avec un iPad. On veut vraiment changer comment qu'on enseigne. On veut changer la pédagogie dans la classe avec l'outil aussi. Ça fait que nous autres, quand on commence avec sortir les iPads ou une école commence à rentrer plusieurs iPads, c'est vraiment un support personnel qu'on veut faire avec les enseignants dans le sujet qu'ils enseignent pour démontrer comment ils peuvent utiliser, disons, Office 365, Explain Everything, FreshGrade, plusieurs d'applications qui peuvent leur aider à transformer la classe. Et pas simplement aller, je dis toujours, tu sais, il y a des apps pour la mathématique que tu vas, puis ça montre l'addition, puis tu pop des bubbles, hein, tu fais 2 plus 2, OK, on pop le 4. Là. S'il y a des jeux là, qui nous aident un petit peu, mais c'est pas vraiment transformer la classe. C'est, tu peux pas juste faire ce jeu-là pour apprendre la mathématique. Tu veux quelque chose de plus grand pour que les élèves savent que la technologie, c'est pas un remplacement d'enseignement, c'est un support. Et comment est-ce qu'on peut supporter l'enseignant pour faire la transformation avec les élèves?
Puis Brian, tu parles beaucoup de transformer la classe là, pour que tout le monde puisse évoluer peut-être dans la même direction. Est-ce que vous avez élaboré des lignes directrices, une vision, quelque chose comme ça, savoir ben, à quoi ça sert les technologies dans notre district scolaire?
Oui, absolument. Nous autres, quand on a commencé, c'était ça qu'on voulait partager, c'était la vision. C'est qu'est-ce qu'on veut faire dans le district, qu'est-ce qu'on veut faire dans nos écoles, qu'est-ce qu'on veut faire dans nos classes. Ça fait que la vision est partagée dans le sens que ça fait quoi la technologie pour toi et tes élèves. Puis c'est différent pour tout le monde parce que dans une classe de sciences humaines, c'est peut-être différent que dans une classe de mathématiques ou d'une classe de gymnase. Ça fait que c'est comment qu'on peut utiliser les outils, puis c'est la vision, disons, pour l'enseignant. Eux-mêmes peuvent dire, « Hey, moi, dans ma classe de gymnase, je veux enregistrer mes élèves quand ils jouent au ballon panier, puis je veux démontrer ça. La forme, on veut faire une évaluation, puis après ça, on met sur FreshGrade. » Ça, c'est personnel à l'enseignant. Ça fait qu'on veut pas juste dire, « OK, voici tout le monde, tous les enseignants de mathématiques, tu vas faire ceci avec l'iPad. » C'est des visions personnelles. Pour chaque enseignant, c'est individuel pour tout le monde, pour faire sûr que les iPads, la technologie, n'importe quelle, on parle beaucoup d'iPads, mais on a aussi des robots, on a Dash and Dot, on a des Sphero. On a beaucoup d'affaires, des outils pour transformer la classe. Ça fait que c'est déterminer, c'est qu'est-ce que l'enseignant veut faire dans leur classe ou qu'est-ce que l'école veut faire dans leur école, si tu veux. Et à la fin, c'est de partager une méthode ou une pédagogie pour faire le changement ensemble et pas simplement de leur laisser aller le faire tout seul.
C'est intéressant ça, Brian. Donc, je comprends que ce changement-là, là, puisque chaque enseignant va pouvoir transformer son éducation, l'éducation dans sa salle de classe, il doit avoir un changement au point de vue de l'accompagnement pédagogique de la part des agents pédagogiques, un peu comme toi, ton équipe, puis aussi des autres équipes au sein de votre district scolaire.
Oui, disons, c'est pas une tâche facile. Des fois, les enseignants, quand ils parlent des accompagnateurs, des accompagnatrices, ils pensent que c'est une tâche facile juste d'aller donner un petit coup de main à un enseignant ainsi puis là pour apprendre, disons, la division. Mais c'est différent. C'est une poste différente parce que ça change à chaque école, ça change pour chaque enseignant. Ça fait que tu apprends toujours. Moi, je dis, comme j'ai fait cette position-là pour 5 ans dans le poste de STEAM, puis c'est tu apprends, c'est pas seulement que tu apprends à chaque jour, mais tu apprends à chaque, disons, chaque heure. Tu es dans une classe, puis tu vas là avec des robots, tu vas là avec Dash and Dot, puis le plan, c'est d'apprendre les fractions avec Dash and Dot. Puis toi-même, tu es l'expert. Tu connais le robot, tu connais la plateforme, mais tu apprends toi aussi parce que dans ce moment-là, c'est différent de toutes les autres expériences que tu avais. Ça fait, c'est ça le but, c'est que tu apprends un petit peu ici puis là, puis tu l'emportes à chaque classe que tu vas. Ça fait que c'est ça, c'est une expérience différée. C'est, tu vas, disons, école A, tu vas, t'es là, puis tu travailles, là, tu vas à école B, tu vas à école C. Mais quand tu arrives à école D pour les aider, les enseignants, les élèves, tu as toute une carrière, pas une carrière, mais tu sais, tu as une histoire en arrière de toi de qu'est-ce que tu as appris de différent. C'est pas toutes les mêmes classes, c'est pas tous les mêmes enseignants, c'est pas toutes les mêmes. Tu n'as pas vécu toutes les mêmes expériences à chaque classe. Ça fait que c'est bien ça. C'est un gros changement, mais à la fin de la journée, tu apprends chaque jour. Puis c'est ça les positions d'accompagnateur, accompagnatrice. C'est tu apprends chaque jour, puis c'est ça, les apprentissages-là que tu partages quand tu vas parler aux enseignants. Puis c'est ça que tu essaies de partager parce qu'eux, ils ont vécu peut-être une chose avec un iPad, puis toi, tu as vécu plusieurs. Tu essaies de partager les moments pour qu'eux savent comment impliquer la technologie, mais aussi comment de changer peut-être leur plan de match, si tu veux.
Oui, c'est certain que en revenant au district, des fois, on revient un peu comme élève parce qu'on a justement, c'est vrai qu'on en apprend beaucoup, puis on doit aussi être très polyvalent. Au point de vue de la polyvalence, au sens des compétences technologiques des enseignants, comment est-ce qu'on accompagne un enseignant? Des fois, on parle de différentes matières, différents niveaux scolaires, mais on a aussi des enseignants qui sont très habiles avec la technologie. Il y en a d'autres qui vont peut-être se saucer le gros orteil, puis ils vont trouver que c'est froid. Comment on accompagne tout le monde pour que s'assurer que ça progresse dans ce virage numérique-là?
C'est pas facile, ça c'est sûr. Tu prends ça jour par jour. Mais c'est vrai qu'on a des enseignants qui sont stellar. Ils savent la technologie. Ils sont à la maison, puis ils ont des iPads, puis ils font du coding, puis des affaires comme ça. Mais ces enseignants-là, disons, on va commencer de ce côté-là. C'est pas simplement de savoir la technologie, mais c'est comment impliquer la technologie avec la valeur aux élèves. Ça fait que c'est une chose de connaître la technologie, de savoir comment l'utiliser, mais l'impliquer dans la classe, ça, c'est une autre chose. Alors, c'est le savoir, c'est une chose, mais c'est le savoir comment et une autre chose. Alors, eux, tu sais, ils ont déjà le buy-in, ils savent que c'est l'iPad a de la valeur, le green screen a de la valeur, ça fait que sont là. Alors, peut-être qu'ils ont juste besoin d'un petit peu de l'aide, de le comment. Ça fait que ça, c'est pas trop dur, c'est disons. Mais ceux-là qui ont pas la connaissance technologique, si tu veux, c'est commencer pas au début, mais commencer où qu'ils sont. Alors, c'est une petite transformation dans la classe, peut-être, qui va leur démontrer que la technologie a de la valeur. Ça fait que tout le monde a une connaissance, disons. C'est pas que tu connais rien à propos de la technologie, peut-être que tu connais rien à propos du iPad, mais c'est de démontrer quelque chose de simple. C'est pas d'aller avec Dash and Dot la première journée avec quelqu'un qui sait même pas comment se brancher sur le réseau ou c'est pas comment allumer l'iPad. Ça fait qu'on va pas avec Dash and Dot ou green screens, des affaires comme ça. Peut-être qu'on commence avec une application comme Explain Everything ou même juste AirPlay si tu as un Apple TV. Ça fait qu'il y a des différents niveaux, tu sais. Il y a des activités que tu peux faire avec les élèves, même avec les enseignants, mais c'est de choisir, de déterminer où qu'ils sont, disons, de le savoir, de la technologie, et de déterminer où qu'on va commencer pour faire sûr qu'ils comprennent que la technologie a de la valeur quand on l'implique dans la classe. Alors, c'est pas, on veut pas leur faire peur aussi. Tu sais, tu veux pas rentrer là puis oh non, je peux pas faire ça, je vais jamais apprendre comment utiliser iPad ou n'importe quoi. Ça fait que c'est vraiment juste de commencer au début et de leur montrer quelque chose j'utilise le mot valeur souvent, ce qui a de la valeur à eux. Ça fait que si c'est un enseignant traditionnel qui utilise il écrit toujours au tableau ou il y a n'importe quoi, whatever, quelqu'un traditionnel. On fait la transition avec un iPad ou on fait la transition avec quelque chose technologique qui démontre que, hey, on peut changer qu'est-ce que tu fais, mais pas trop. Ça fait qu'on n'a pas besoin de trop changer qu'est-ce que tu fais, mais juste un petit peu. Ça va nous aider, ça va aider aux élèves. Ça fait que c'est vraiment ça, c'est de prendre la situation comme telle à chaque fois, personnel, puis aussi de déterminer comment qu'on peut démontrer aux enseignants un petit peu à la fois pour pas leur faire peur, mais aussi de leur démontrer la valeur de la technologie dans la classe.
C'est peut-être aussi de trouver une façon de leur faire vivre des succès aussi, dans le fond, à savoir, là, de pas, justement, tu parlais de pas aller trop d'avance. Puis, donc, Brian, maintenant, dans une école. Donc, dans une école qui veut faire un virage numérique. Donc, tu as parlé tout à l'heure que vous en aviez 39 des écoles. On ne va pas nécessairement analyser chacune des écoles, mais qu'est-ce qu'il y a des éléments clés qui sont importants là, pour que ça ait un succès, qu'on ait vraiment un virage, là, que c'est pas juste deux ou trois enseignants, mais qu'on ait une majorité d'enseignants qui progressent en technologie et qui amènent leurs élèves à justement transformer les apprentissages?
C'est une bonne question. Puis tu viens juste de dire comme le mot succès, c'est de même quand on dit les enseignants de vivre un petit succès. C'est vraiment de choisir, ça veut dire quoi le mot succès quand on fait un virage numérique? Sais-tu que toute l'école, tous les enseignants veulent le vivre ou est-ce que c'est la moitié? Il faut vraiment déterminer c'est de quoi un succès quand on commence. Alors pour moi, les affaires clés vraiment, quand on fait le changement, si tu veux, ou on commence, c'est la patience. Ça arrive pas, tu sais, on fait pas ça dans une semaine, on fait pas ça dans un mois. Une année scolaire, peut-être, on a de la moitié, mais ça peut prendre 5 ans avant qu'on a un changement qu'on peut vraiment voir. Ça, c'est vraiment la patience parce que c'est pas... Puis tu veux pas abandonner, tu sais, on fait quelque chose pour un an, tu dis, ça n'a pas marché, on ne fait plus des iPads, on va aller avec des, je sais pas, des netbooks, quelque chose. Tu veux pas changer juste parce que tu vois pas qu'est-ce que tu veux voir dans une courte période. Alors, la patience, c'est vraiment la première chose qu'on veut faire sûr que pas seulement le district, si tu veux, les personnes, tout le monde qui est impliqué dans le changement, dans le virage, c'est de la patience. Aussi, c'est le vouloir. Alors, les enseignants, faut qu'ils ont besoin de le vouloir de faire un changement. C'est pas tout le monde qui a besoin de le vouloir de dire, OK, j'ai plus besoin d'imprimer mes notes, ça va être tout à être sur Microsoft, Office 365. Ça, c'est, je veux pas dire le vouloir comme tel. C'est le vouloir d'apprendre. C'est le vouloir de voir la différence et la possibilité. C'est ça que tu as besoin. Parce que si tu as du monde qui dit « Non, je veux rien savoir, moi, je ferme ma porte puis viens pas me voir », il faut trouver un petit vouloir. Il faut trouver un petit quelque chose qu'ils veulent changer. C'est peut-être pas l'iPad, mais c'est peut-être quelque chose d'autre qu'on peut impliquer dans la classe ou leur démontrer comme un site web Weebly ou whatever pour qu'ils peuvent voir la raison de faire un petit changement. La vision est vraiment importante aussi. Si on parle de patience, ça c'est important, vouloir et la vision. C'est pas souvent on garde nos cartes proches. On ne veut pas trop dire, mais c'est vraiment de montrer tout le monde les cartes, de tout montrer. Faut que les enseignants, l'école, le district savent la vision, où qu'on veut aller, c'est quoi la raison, c'est pourquoi qu'on veut impliquer la technologie et pourquoi tu veux que moi, je transforme ma classe. C'est souvent qu'on entend, ça a marché pour moi quand j'étais jeune, t'sais, moi je me fais enseigner comme ça, ça fait que j'enseigne comme ça aujourd'hui, ça va marcher, c'est sûr. Mais ça, c'est pas une raison de garder tout de la même. Faut transformer, faut savoir la vision, pourquoi qu'on change. Si qu'on donne la vision, on était là un jour, on faisait 50 questions en mathématiques dans 2 minutes, on était là pour une raison. Là, faut changer, faire un shift, puis voici la vision. Voici la vision de la technologie, voici la vision de faire un changement en mathématiques ou en sciences ou n'importe quoi, et voici le pourquoi. Et finalement, je pense que un autre élément, c'est le support et la collaboration entre enseignants. Alors, c'est pas seulement un support du district, comme on parle d'agent pédagogique, on parle d'accompagnateur, accompagnatrice. C'est pas seulement qu'on a besoin de ces personnes-là dans un district. On a besoin de le support entre enseignants dans une école. On a besoin de la collaboration entre enseignants aussi et de vouloir travailler ensemble. Si moi, j'ai un problème, je veux aller voir, tu sais, je vais te voir, Mathieu, on va se parler, j'ai une question pour toi, peux-tu m'aider? On veut avoir la connaissance qu'on peut faire cela dans une école, tu sais, et travailler ensemble parce que même si, disons, il y a quelqu'un qui est au niveau 10, il sait tout qu'est-ce qu'il a besoin de savoir à propos d'un, on parle beaucoup d'iPad, d'un iPad, mais je devrais pouvoir aller parler à cette personne-là pour du support. Et on devrait pouvoir collaborer ensemble pour trouver des méthodes que moi, je peux impliquer les iPads. Si toi, tu l'utilises déjà, peux-tu me démontrer comment tu l'utilises? Comment que moi, je pourrais l'utiliser? Alors, c'est ça les éléments vraiment importants dans une école, même dans un district, pour faire un virage numérique. Parce que souvent, on parle de la technologie, tu sais, oh, c'est quoi la technologie la plus importante ou que tu commences? Mais c'est pas un iPad, c'est pas un robot, c'est pas un smartboard. C'est vraiment d'avoir la vision, mais la patience, le vouloir de faire un changement. C'est quoi le changement que tu veux qui va transformer pas seulement ta classe pour les élèves et les enseignants, mais qui va transformer ton école une place pour les élèves que tu vois la transformation a de la valeur et que les enseignants, chaque jour et durant l'année scolaire, savent que je viens à l'école, je viens travailler et j'ai le support. Il y a une raison pour être ici. Mais au lieu d'enseigner les élèves, il y a une raison pour la transformation, il y a une raison qu'on fait un changement dans la méthode d'enseigner. Et c'est bien ça. Ça fait que ce serait ça mes éléments clés, si tu veux, pour vraiment avoir un virage numérique qui aurait du succès et de déterminer c'est quoi le succès pour l'école ou le district.
Brian, le dernier épisode, on a parlé avec Lynn Chantal Boudreau, une chercheure à l'Université de Moncton, qui parlait on a essayé d'adresser l'angle du leadership qui est nécessaire à l'innovation en éducation. Puis Lynn Chantal nous parlait que de l'importance d'avoir un style de leadership qui était plus un leadership partagé. Donc, ça n'appartient plus nécessairement à la direction de l'école ou à l'équipe de direction d'avoir le leadership, mais d'avoir ce genre de leadership qui est partagé à travers les membres, d'aller ressortir chacune des forces de chaque personne dans notre équipe. Quand je t'entends parler de support, de collaboration, je vois des liens, moi, entre ce besoin-là puis les principes du leadership partagé, que ça n'appartient pas nécessairement à la direction d'école de tout connaître, justement, au point de vue pédagogique, qu'est-ce qui se fait avec l'iPad, mais de pouvoir aller rechercher les forces dans nos écoles.
Oui, absolument. C'est souvent ça qu'on voit, c'est la direction d'école sait pas quoi faire, mais c'est de partager le leadership dans l'école parce qu'il y a des forces dans nos écoles. On a des enseignants qui ont des forces technologiques, qui ont des forces pour partager, il y a des forces pour apporter du monde ensemble. T'sais, ça fait qu'il faut vraiment regarder les forces dans l'école, dans les enseignants, avec eux, pour mettre des caps, si tu veux, des communautés d'apprentissage professionnel ensemble pour qu'on puisse bien travailler puis apprendre puis trouver une méthode de transformer qui est facile pour tout le monde. Puis c'est pas juste la direction, comme tu dis, d'école qui rentre à chaque journée puis dit « OK, aujourd'hui, on fait ceci. » Parce que là, ça, c'est beaucoup de travail pour la personne qui est dans cette position-là. Puis c'est pas seulement... Ça devrait pas être seulement sur leurs épaules de faire le changement aussi parce que faut voir la valeur. Si les enseignants sont engagés dedans, le changement, ça veut dire qu'ils ont du ownership du changement aussi. Ça fait que c'est pas seulement personnel, ils vont s'engager dedans aussi.
Bien, merci beaucoup, Brian. C'était vraiment intéressant d'échanger avec toi sur un virage numérique dans un district scolaire. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis, je suis sûr que nos éditeurs en ont pris beaucoup.
Ouais, merci pour m'avoir, Mathieu.
En terminant, Brian, pourrais-tu nous parler un peu de ton balado que tu as lancé dernièrement?
Merci Mathieu. Si vous vouliez, allez voir sur Twitter The Creative Classroom Podcast. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est un balado qui vraiment effectue la présence des compagnies technologiques qui donnent du support et des produits pour changer la classe, pour transformer l'éducation. Alors, je fais des émissions à chaque 2 semaines, puis j'invite les compagnies qui peuvent nous donner des produits ou offrir des plateformes, si tu veux, pour faire une transformation dans n'importe quel sujet, mais aussi qui donne du support aux enseignants pour apprendre comment faire une transformation dans leur classe pour leurs élèves. Alors, venez nous trouver The Creative Classroom. Je suis sur Spotify et aussi sur Anchor et suis-moi sur Twitter, @The Creative Classroom.
Merci, Brian.
Merci beaucoup à toi, Mathieu.
Voici maintenant les questions en vrac. Voici maintenant les questions en vrac. Quel livre en éducation as-tu lu récemment?
Je viens juste de finir le livre Vintage Innovation par John Spencer.
À ton avis, quel est le rôle de l'école?
L'école doit fournir un environnement d'apprentissage qui est basé sur la créativité, l'innovation qui serait différent pour chaque élève.
À ton avis, quel est le plus grand mythe par rapport à l'innovation en éducation?
Le plus grand mythe, ça serait qu'on n'a pas besoin d'innover l'éducation parce que ça marchait pour moi quand j'étais jeune, ça fait que ça va marcher aujourd'hui.
Quel adjectif décrit le mieux ton expérience éducative lorsque tu étais élève?
Je dirais inspirant parce que j'avais des enseignants dans ma carrière et aussi quand j'étais jeune qui m'ont démontré des manières d'enseigner, aussi d'apprendre qui n'étaient pas traditionnelles. Ça fait que j'avais des moments dans ma vie inspirants de voir qu'il y avait des méthodes différentes d'apprendre aussi, de démontrer d'apprentissage aux élèves.
Quelle expression as-tu apprise ou comprise récemment?
C'est pas tout le monde qui veut changer, mais c'est la plupart du monde qui veut apprendre.
Et c'est maintenant le temps de vous présenter notre outil technopédagogique. Donc, cette semaine, je voulais adresser peut-être une question qu'on me pose souvent comme leader en technopédagogique, surtout dernièrement avec la pandémie de la COVID-19. Donc, les enseignants aiment pouvoir faire un enregistrement de leur écran. Donc, faire une capture d'écran vidéo et partager ça à leurs élèves. Donc, on me demande souvent quel est le meilleur outil, comment on pourrait faire ça. Tout dépend de l'outil que vous utilisez pour faire cette capture d'écran-là. Donc, si vous avez, par exemple, un iPad, ben l'iPad, dans le iOS, d'intégrer, si vous allez à votre centre de contrôle, il y a une façon d'aller activer la capture d'écran et de capter le son. Donc, si vous êtes muni d'un stylo Apple, ben, vous pouvez faire vos vidéos directement là-dessus. Ça va se faire quand même assez bien. On peut prendre des applications gratuites aussi simples que Note et faire l'enregistrement d'écran. Quand on vient travailler avec un ordinateur, ben là, c'est peut-être un peu plus complexe. Donc, il y a plusieurs logiciels payants qui existent. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'avoir une licence de Camtasia lors d'un contrat que j'ai fait, puis c'est ce que j'utilise personnellement, mais on comprend que c'est quand même assez dispendieux, puis en plus de ça, c'est de plus en plus ces compagnies-là vont vers des modèles où est-ce qu'on doit avoir des frais annuels ou des frais mensuels pour utiliser leurs produits. Donc, selon mes recherches, j'ai trouvé que un outil qui pouvait être utilisé, que ce soit avec Windows, avec macOS ou avec Linux, c'est le OBS Studio. Donc, c'est un logiciel open source qu'on appelle, donc il n'y a pas de frais, il est gratuit. Et on peut aller le télécharger, une petite recherche Google va vous permettre de le trouver, c'est obsproject.com. Ça vous permet d'enregistrer votre vidéo et aussi de faire de l'éditage. Donc, si ça peut répondre à un de vos besoins, ben voilà, allez télécharger OBS Studio sur le site obsproject.com. Donc, c'était tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Encore là, si vous voulez nous joindre sur les médias sociaux, soit sur notre groupe Facebook, notre groupe sur Twitter, contactez-moi, donnez-moi la rétroaction. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on aborde, faites-nous part de ça. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour me partager votre rétroaction. Vous pouvez le faire sur Twitter, soit sur le compte de la balado à commercial balado InnovEd ou sur mon compte personnel à commercial Matt Goats, MattGauths. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette balado. À la prochaine!